L'arc jurassien regorge d'entreprises horlogères. Malgré la multitude de marques existantes, certains osent le pari d'en lancer une nouvelle. C'est notamment le cas de mon invité. Il a sauté le pas en octobre de 2017, mais de son propre aveu, il faut être fou pour le faire. Pour découvrir son délire, je me suis rendue dans les locaux de sa start-up située au dernier étage d'un immeuble locatif à Bienne. Nous sommes loin de l'esprit manufacture horlogère. L'ambiance est jeune, moderne, la création et le design s'affichent sur les murs. Mon invité, lui, est dynamique et décomplexé. Il bouscule les codes traditionnels et conservateurs de l'horlogerie de luxe. Il a choisi d'avancer à contre-courant. Le courant électrique, c'est d'ailleurs son moteur. Il s'est inspiré de l'univers de l'électricité pour créer The Electricians. Laurent Ruffenhart, bonsoir.
Bonsoir.
Sortie de boîte, Anastasia Lirti.
Laurent Ruffenhart, nous allons d'abord faire connaissance. Commençons par évoquer votre parcours. Vous êtes biennois, vous avez 46 ans. Vous baignez dans le milieu horloger depuis votre plus jeune âge. Vos parents ont travaillé pour cette industrie et ils ont tout fait pour que vous ne suiviez pas leurs traces. C'est raté.
On peut dire ça comme ça.
Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas que vous travailliez dans l'horlogerie pour l'horlogerie ?
Je pense que tous parents qui ont fait leurs propres expériences et qui viennent d'un certain domaine professionnel, j'imagine, quand on fait des enfants, comme c'est d'ailleurs mon cas, peut-être qu'on a envie d'influencer certains choix à un certain âge, de peut-être suivre un certain cours, une certaine industrie, ou de donner peut-être des perspectives à son enfant que peut-être on n'a pas soi-même choisi.
Alors au début des années 90, vous commencez votre parcours dans ce secteur, alors qu'au départ, vous souhaitiez faire carrière dans le football. Le destin en a voulu autrement ?
Tout à fait, mais c'est vrai qu'au final, de pratiquer un sport et surtout d'avoir des ambitions, c'est ce qui était important pour moi. Et le fait que le foot n'a pas passé, c'est surtout mon corps qui a dit non, étant donné le physique qu'il faut avoir pour le sport de haut niveau. En fin de compte, ça m'a très très bien préparé pour relever des challenges professionnels qui sont au final aussi excitants et qui durent aussi un peu plus longtemps que le foot de haut niveau.
Et vous dites, vous avez mis toute votre rage justement dans le travail.
C'est exact. C'est vrai que j'ai acquis quand même beaucoup de force et d'énergie, et surtout ça a formé le caractère de le travail d'équipe, être performant et puis surtout vouloir gagner et avancer.
Alors sur votre CV, pas de grandes études, vous êtes autodidacte. Après une première expérience dans l'horlogerie, vous intégrez le Swatch Group au début des années 90. Vous avez travaillé dans plusieurs marques, dans le développement produit. Vous devenez designer et pourtant vous dites, vous ne dessinez pas bien. Comment c'est possible ?
Non, effectivement, mon parcours, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir grimper des échelons et de pouvoir apprendre beaucoup de choses, travailler dans pas mal de départements. Et c'est vrai que dès que je suis entré dans le département produit, développement et design, automatiquement, j'ai senti que c'était ma place. Et puis, j'ai pu pratiquer pendant de nombreuses années, justement, ce métier. Et puis, à travers le Swatch Group, c'est vrai que j'ai passé 7 merveilleuses années avec un très beau projet qui était SIKE Watch en 97. Et puis, voilà, et c'est vrai que ça m'a vraiment lancé parce que j'ai pu découvrir qu'à travers l'objet horloger, l'objet de la montre, comme je l'appelle, on peut faire beaucoup de choses. Et puis j'ai pu bien m'amuser, et puis ça m'a donné envie de continuer jusqu'à aujourd'hui.
Alors, durant ces années-là, vous avez notamment travaillé, côtoyé de près Nicolas Hayek. Racontez-nous cette expérience.
L'expérience, je crois que voilà, devant un tel personnage avec historique, avec tout ce qu'il a apporté à l'industrie horlogère, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de pouvoir avoir côtoyé une personne comme ça. Et puis de nouveau, je pense que c'était la philosophie dans le Swatch Group. Aujourd'hui, je connais un petit peu moins puisque je suis un peu un outsider, mais voilà, on avait c'était quand même un groupe et avec des marques qui donnaient la chance aux jeunes et qui pouvaient se développer en interne en grimpant les échelons si tout allait bien.
Alors en 2005, vous avez décidé de vous mettre à votre compte. Vous créez Studio Divine, votre agence de design. Comment ça s'est fait ?
Ça s'est fait après, de nouveau, un parcours professionnel assez, assez long au final, où j'ai passé vraiment plus de 15-16 ans à travailler pour différentes marques et à me former. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais retourné aux États-Unis pour travailler à un autre groupe. Et puis, ça ne s'était pas très bien passé. J'avais pas trop adhéré à la philosophie. Et puis, j'avais décidé d'arrêter. Et puis, à ce moment-là, il n'y avait pas trop de challenge qui s'offrait à moi. Et puis, un matin, je me suis dit que je n'avais pas très envie de rester à la maison et attendre que quelque chose s'offre à moi. Donc, je me suis dit qu'il fallait offrir des services à des gens qui en auraient envie et puis de partager un peu mon savoir, entre guillemets, en toute humilité.
Fin 2017, vous lancez votre propre marque de montres, The Electricians, les électriciens en français. Vous étiez en manque d'aventure ?
Non, je pense que ça fait partie d'un processus personnel. C'est vrai qu'autant j'ai passé, maintenant ça fait 15 ans qu'effectivement l'agence de branding et design Studio Divine existe. Entre-temps, il y a 6 ans, il y a une autre marque qui était née, qui est toujours d'actualité, mais j'ai passé effectivement autre chose depuis l'année passée. La marque s'appelait Seven Friday. Et puis non, les électriciens s'inscrivaient dans un contexte de développement avec un partenaire. Et puis la deuxième marque faisait du sens parce qu'avec toute l'expérience et l'envie qu'il y avait de proposer des choses différentes, la deuxième marque s'est imposée d'elle-même.
Alors certains disent que les jeunes ne portent plus de montres. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on est à l'heure de la montre connectée. Pourquoi ne pas avoir misé là-dessus ?
Alors, le point de départ avec les Electricians, c'était de trouver un territoire, de trouver une histoire, un storytelling, comme on dit, et qui était donc ce territoire, l'électricité. L'électricité, c'était aussi une manière de pouvoir utiliser un mouvement, puisqu'on sait que dans l'horlogerie, c'est important. Si on veut travailler dans le mécanique, on est aussi automatiquement dirigé vers un haut de gamme ou une entrée de haut de gamme. Et puis l'idée était de travailler une marque qui commençait entre 350 et qui allait jusqu'à 600-700. Donc automatiquement, si on gardait, entre guillemets, un markup et une distribution qui fait qu'on a besoin de marge, on était obligé de faire attention au coût. Donc voilà, l'électricité, l'électronique, les modules, ce qu'on développe nous-mêmes donc chez The Electricians.
De nos jours, plus que de donner l'heure, la montre est devenue un signe de distinction sociale. Vous l'avez un peu évoqué, hein, je pense aux marques de luxe. Vous avez un prix accessible, on va dire. Vous souhaitez, au fond, démocratiser l'objet montre, le rendre accessible à tout le monde ?
Effectivement, de nouveau, si on a la prétention de créer une marque, comme je l'ai eu, c'est vrai qu'il faut vraiment apporter quelque chose d'autre. Et c'est vrai que l'idée, autant par le nom, son territoire, et puis le type de mouvement, et c'est vrai que vous, par rapport à ce côté smart, je ne vous ai pas exactement répondu, on n'est absolument pas fermé. On a commencé par offrir notre propre module qui était basé sur l'électricité et l'électronique. Et derrière, il est prévu effectivement d'entrer dans le domaine du smart, entre guillemets de la smartwatch, mais pas tel que des grandes marques les offrent aujourd'hui, puisque smart aujourd'hui n'est pas juste d'avoir un pulsomètre ou d'avoir des fonctions sportives. Donc l'idée est d'associer le territoire de l'électricité, des fonctions sympathiques, modernes, qui peut justement donner une nouvelle expérience à une marque ou à un produit.
Alors, pour mieux comprendre le processus qui mène à la réalisation de vos montres, on va visiter vos locaux en compagnie de Nadia.
Sortie de boîte.
Ici, on est chez les électriciens. L'idée de créer une nouvelle marque, c'est vrai que si on a la prétention de créer une nouvelle marque, il est important d'amener quelque chose de différent. Aujourd'hui, ça veut dire que le territoire, on est dans le monde de l'électricité, dans le monde un peu d'énergie renouvelable, un petit peu ce qui sont dans l'air du temps. Et puis, l'électricité fait aussi qu'au niveau design, au niveau recherche, développement, il y a énormément de choses à faire. Par exemple, la lumière, qui est un des points très importants dans la marque, est un moyen d'expression parmi d'autres où, effectivement, on va essayer de créer une nouvelle expérience produit à travers justement lire l'heure, illustrer quelque chose en ayant une interaction avec la lumière.
Alors ici, on se trouve dans vos locaux à Bienne. On y trouve quoi ici ?
On est plutôt orienté sur la Suisse, sur la création de valeur. Création de valeur veut dire quoi ? C'est vraiment l'aspect branding, l'aspect exécution du design. Puis, où on va créer, bien sûr, la modélisation, la 3D, les rendus, et puis tout ce qui est outils digital. Donc voilà, ici, c'est vraiment plutôt sales, marketing et création et R&D.
Le montage, tout ce qui est les structures de la montre, ça va se faire comment ?
Et directement depuis Hong Kong.
Et puis la distribution ?
La distribution, elle est sur deux axes. On a bien sûr ce qu'on appelle l'offline et le online. Tout ce qui est la partie offline, c'est la partie traditionnelle. Ça veut dire qu'il y a des distributeurs dans les pays, donc les magasins traditionnels. La partie online, qui est vraiment le challenge le plus important qu'on a aujourd'hui, c'est comment, vu que les clients en général, venant de partout, ont leurs habitudes de consommation qui ont complètement changé, c'est-à-dire qu'ils n'achètent plus les mêmes choses au même endroit, au même prix, pour les mêmes raisons qu'avant. C'est vrai qu'ils ont une habitude de consommation et de découvrir des produits ou des marques à travers, alors que ce soit les réseaux sociaux ou à travers le bouche à oreille ou à travers des événements différents. Le côté digital, qui est très important pour la marque aussi, pour l'électricien, pour son futur, c'est la création de contenu, c'est le message. Il n'y a pas que Facebook et Instagram, en guillemets, pour les citer. Il y en a d'autres, suivant dans les régions, comme en Chine ou ailleurs. Pour revenir à votre question, où est-ce que c'est fait ? C'est toujours fait ici pour l'instant.
Je m'appelle Massimo Teresini et je suis designer. Donc on part toujours en fait d'une idée ou d'un ressenti. Ce qui est important, c'est de pouvoir concrétiser ça et matérialiser ça sur papier. Donc on va commencer avec une phase de sketch et mettre toutes les idées qui nous viennent à l'esprit sur papier. Et là, on va faire une sélection et ensuite on va partir de tout ce qui est rendering 2D, donc avec notre programme Illustrator, qui va nous permettre en fait de mieux visualiser les contraintes et les aspects des proportions des différentes parties de la montre. Et de là, on peut partir sur une modélisation 3D où on voit vraiment tous les volumes.
De là, on va y ajouter des couleurs, on va choisir des versions. Et c'est vrai que dès ce moment-là, quand tout est figé, pouvoir faire un prototype et pouvoir aussi le donner aux fournisseurs pour qu'ils puissent faire leur développement. Donc c'est là où la 3D devient très important, où là, on va pouvoir consolider ça dans un espace 3D. De là, effectivement, l'industrialisation commence. C'est pour ça que c'est un autre métier. Donc chaque montre, ça faisait partie du brief technique, c'est-à-dire qu'on voulait montrer la source d'énergie, qui est donc là, par exemple, la batterie. On a des câbles qui transfèrent l'énergie. Et on a aujourd'hui un cadran qui montre l'heure. Ces trois aspects en font leur propre ADN. C'est pour ça que ça faisait partie d'un brief technique. C'est particulier. Le fait d'avoir la lumière fait que c'est notre propre module. Donc du coup, c'était l'idée. Chaque montre électricien doit avoir sa lumière. Sinon, on n'est pas des électriciens.
Sortie de boîte.
Des montres donc designées, développées en Suisse et produites à Hong Kong. Est-ce que ça explique le prix de vente relativement peu coûteux ?
Bien entendu, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans toutes les industries, il y a un challenge sur le prix, un challenge sur la qualité. Bien entendu, il y a beaucoup d'aspects qui sont reliés à ça, notamment l'éthique, et de faire attention effectivement à comment sont produits et quelles sont les répercussions qu'il y a sur la production de ces produits. Mais effectivement, toutes les industries ont le même problème dès le moment où on veut être compétitif. De nouveau, vendre par exemple que online permettrait effectivement de fabriquer plus cher. Mais de l'autre côté, les gens voudraient plutôt le vendre moins cher. Et donc, mais effectivement, c'est dans beaucoup d'industries, c'est difficile de faire autrement que de produire des endroits où c'est un petit peu moins cher. Mais j'aimerais quand même relever le fait que Hong Kong n'est pas juste parce que c'est moins cher. Il ne faut pas oublier que dans cette région-là, il y a des technologies, il y a des services, il y a des offres qui sont quand même très développées. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire chez nous et surtout, effectivement, pas à des coûts compétitifs.
Justement, cette production à l'étranger, c'est quelque chose que vous assumez complètement, sans complexe. Et ce que vous dites, en fait, c'est Hong Kong, l'Asie, ce n'est pas synonyme de mauvaise qualité.
Bien au contraire. Et je pense que tous ceux qui travaillent dans l'industrie horlogère savent qu'on ne fait pas que de la mauvaise qualité. Bien au contraire. Et je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que l'Asie, la Chine, le Hong Kong fait quand même partie du grand succès, et qu'au succès international, et notamment de la maintenance de la qualité. Et puis de certains prix de marques très populaires, que je ne veux pas citer ici, qui, grâce à eux, ont quand même réussi à se développer très fortement, mais sans oublier, bien entendu, que l'horlogerie suisse notamment, et tous ces fabricants exceptionnels qu'on a ici dans cette région, sont effectivement orientés pour d'autres produits, d'autres gammes de produits, et qui vont continuer à faire rêver et à faire que l'horlogerie suisse est aussi désirable, et notamment les marques un petit peu moins prestigieuses en profitent toujours. Voilà. Mais je voudrais aussi dire un petit mot par rapport à la provenance. C'est vrai que Dielectuschen est une marque suisse, et c'est vraiment important de le dire, parce que de nouveau, on pourrait être n'importe où. J'ai des bureaux, j'ai des sociétés qui sont quand même dans d'autres pays. On pourrait effectivement décentraliser si c'était qu'une question de coût. Donc la marque, elle est vraiment suisse. On fait nos design développement, on a notre R&D, on a des ingénieurs, on développe nos propres modules en Suisse. Et puis effectivement, la partie qui est importante, c'est l'industrialisation. Il y a cette autre partie qui est faite en Asie, mais pas tous les composants non plus.
Mmh. Alors voilà, donc vous l'avez dit, une marque suisse, une montre suisse, mais qui n'est pas estampillée Swiss Made, hein, vous n'avez pas le label. Est-ce que c'est une faiblesse lorsqu'on sait qu'à l'étranger, les consommateurs raffolent, notamment les Asiatiques, de montres suisses ?
Écoutez, j'en reviens à ce fait que pour créer une nouvelle marque, il faut vraiment décider de ce qu'on veut en faire. Aujourd'hui, je pense que des marques Swiss Made, il y en a bien assez, je pense qu'il y en a bien trop. Et surtout, le monde entier, surtout beaucoup d'étrangers essayent, qui n'ont rien à voir avec la Suisse, et font des marques Swiss Made. Donc, le parti pris est fait que, de nouveau, on a décidé de créer une marque qui offrait quelque chose d'autre. Et ce qui est très important pour être une marque Swiss Made, il faut un mouvement suisse. Donc, il est vrai que notre propre module, et de nouveau d'industrialiser ce qu'on voulait avec l'échelle qu'on était en tant que start-up, était quand même difficile. Et puis, je dois aussi avouer qu'un ou deux fabricants de mouvements n'ont pas trop voulu jouer le jeu en nous dévoilant un petit peu des aspects techniques qu'on avait besoin pour notre module, que les Asiatiques n'ont pas trop eu de problème à ce niveau-là.
Donc, vous misez sur ce côté électricien qui, selon vous, est unique au monde. Vous l'avez protégé.
Alors, Dielectuschen, effectivement, est une marque protégée, soit autant par sa catégorie de produits. Bon, aujourd'hui, on parle d'horlogerie, mais Dielectuschen est une marque déposée mondialement dans la majeure partie des catégories de produits, y compris d'expérience, comme même des bars, des restaurants, des choses comme ça. On s'est laissé la liberté de protéger ça. C'est vrai que ça a été un choix fort au départ, qui effectivement a une conséquence financière, j'ai peut-être un tout petit peu sous-estimé, mais le plus important, voilà, on croit en l'avenir, avec de nouveau une marque qui avait apporté une expérience nouvelle. Et je pense que l'expérience nouvelle, elle se traduit pas seulement par un objet qu'on porte au poignet, mais par aussi la manière dont on va l'acheter, où on va l'acheter. Et puis c'est aussi ça le challenge important qu'on va avoir dans les années qui viennent, c'est comment au niveau digital, au niveau de manière générale, comment est-ce que les clients vont découvrir la marque et dans quel endroit. Et ça, c'est effectivement ce qui va devenir intéressant dans les mois et les années à venir, c'est où on va trouver des marques. La marque électricienne ne sera pas là où on croit.
Alors justement, on va y venir, c'était ma prochaine question. À l'heure actuelle, la vente se fait sur Internet, mais vous avez aussi plusieurs points de vente en Asie. Pas seulement en Asie, mais l'Asie, c'est votre marché principal pour l'instant.
Je dois réfléchir. Il est le marché principal, mais pas le seul. On n'est pas très loin comparé à certaines régions comme le Moyen-Orient ou l'Europe. L'Europe est un marché de toute façon très difficile, mature et qui est un petit peu... un peu compliqué, mais je ne veux pas m'attarder trop là-dessus. Alors l'Asie, c'est vrai que c'est un marché qui est jeune, c'est un marché qui aime les marques, qui aime les nouvelles expériences et qui sont plus ouverts. Maintenant, voilà, on a démarré, on a lancé la marque, justement, ce n'était pas online, on a bien sûr eu développé tout de suite un site internet, un webshop, mais on est allé dans la tradition, enfin le choix a été de se lancer dans la distribution traditionnelle. Excusez-moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans ce questionnement, étant donné la situation du marché traditionnel, la distribution traditionnelle, qui a de la peine à se réinventer ou à être dynamique. Et puis surtout, je crois que les jeunes n'ont plus très envie de pousser la porte des boutiques qui sont pas forcément un endroit où on se sent le bienvenu.
Très rapidement, vous parlez des jeunes. Les jeunes, c'est donc votre public cible ?
Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. On va voir à travers les prochains mois. La marque, de nouveau, va proposer quelque chose de différent. Et ça va être... c'est tout consommateur qui cherche un produit différent, qui cherche une nouvelle expérience. Et c'est vrai, à travers la lumière, la manière de montrer l'heure, à travers ses codes, fait que ce produit, à travers les versions qu'on va avoir, peut toucher tout public.
Il est temps pour nous d'accueillir la chronique horlogère de Marie-Lise Saillard. Le sujet nous concerne tous. Laurent Ruffnard, soyez attentifs, on en reparle dans un instant.
Pile à l'heure.
À la fin du mois, nous changeons d'heure et ça pourrait être une des dernières fois. Une réflexion est menée sur cette question au niveau européen. En février 2018, le Parlement européen a voté une résolution qui vise à évaluer l'intérêt du changement d'heure, quels avantages économiques ça représente, quel est l'impact sur la santé. La France s'est passée à l'heure d'été en 1976 pour faire des économies d'énergie. Quand le soleil se couche tard, on allume la lumière moins longtemps. Il y a une économie réelle, l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité d'une ville de 800 000 ménages. Mais en contrepartie, il faut davantage chauffer le matin. Du coup, l'argument énergie ne pèse pas si lourd. Voyons ce qui se passe du côté de la santé.
C'est les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, c'est le sternum qui se dégomme, et le sacrum c'est tout comme, c'est le nombril tout en vrille, et le coccyx qui se dévisse.
Alors, on n'en est pas à ce point-là, mais certains évoquent la perturbation du rythme de sommeil qui générerait plus de fatigue. Et puis d'autres parlent de perturbation des activités agricoles. Reste que la Commission européenne est pour la suppression du changement d'heure, tout en laissant aux pays membres le soin de choisir entre l'heure d'été et l'heure d'hiver. La France a mené une consultation, 2 millions de personnes y ont participé et les résultats viennent d'être communiqués. Plus de 80% des personnes qui se sont prononcées veulent mettre fin au changement d'heure et une majorité veut opter pour l'heure d'été. Suisse dans tout ça. Elle avait déjà adopté le changement d'heure en 1981 pour être en cohérence avec les pays voisins. On la voit mal rester seule à changer d'heure deux fois par an alors que les pays qui l'entourent ne bougent plus les aiguilles de leur montre.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Quoi qu'il en soit, il faudra encore du temps pour que tout se mette en place. La Commission européenne voulait mettre fin au changement d'heure cette année déjà. Le débat est retardé, l'échéance est repoussée à 2021. Et vous, vous êtes plutôt heure d'été ou heure d'hiver ?
Pile à l'heure.
Alors, je vous retourne la question, je vous laisse répondre.
Dès que j'entends l'été, on va dire été.
Vous ne souffrez pas du changement d'heure ?
Oh, je souffre de beaucoup de choses, mais non, c'est plus le décalage qu'on souffre. Et forcément, le temps et l'heure est quelque chose qu'on doit maîtriser. Mais de ce côté-là, non, disons que tout va bien.
Revenons à vos montres. Pour l'instant, vous proposez 6 modèles, plutôt au masculin, aux certains unisexes. Est-ce que le développement d'un modèle pour femmes fait partie de vos projets ?
Absolument. Les prochains développements à court terme vont être axés sur le renforcement de la proposition produit. Ça veut dire d'accentuer le fait qu'on va amener de l'électricité, ce territoire, plein d'interprétations très sympas et pour justifier que voilà, on s'appelle les électriciens à travers des complications lumineuses et des choses comme ça. Mais derrière, c'est vrai que on va utiliser les mêmes choses pour un produit d'une catégorie féminine. Je ne dirais pas forcément une catégorie féminine. Je pense qu'il y aura des interprétations très féminines à travers un autre module qui va nous permettre d'être un peu plus petit. C'est vrai qu'avec la montre aujourd'hui, tout le monde n'est pas... Même si les montres se portent grandes et que beaucoup de femmes dans le monde aiment bien des objets qui sont voyants et donc qui ont d'identité et qui se voient. Mais c'est effectivement prévu l'année prochaine de développer quelque chose un peu plus adapté pour ceux qui sont pas contents.
Alors, comment vous envisagez l'avenir ? Vous l'avez un peu dit, mais il y a encore beaucoup de mystères qui entourent tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Écoutez, il y a forcément une réflexion et des décisions qui sont en train de se prendre. C'est évidemment, le concept suscite beaucoup d'intérêt et beaucoup de gens sentent le potentiel qu'il y a de développer d'autres objets autour de la montre. Et c'est vrai qu'on va développer effectivement d'autres objets et surtout d'autres expériences où acheter le produit. Et c'est ça qui va être intéressant, autre que des jolies petites montres qui sont développées pour l'instant.
Laurent Ruffenart, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés au terme de Sortie de boîte. Merci aussi à Sandra qui était à la technique. L'intégralité de cette émission sera disponible tout à l'heure sur notre site internet.
Sortie de boîte.